Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique. Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans la Happy Hour.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Happy Hour, c'est parti pour une heure d'émission à une dizaine de jours de ce prochain scrutin. C'est à l'Europe qu'on s'intéresse aujourd'hui, à l'Europe depuis nos territoires, dit autrement à ce que nos territoires ruraux, villes et villages peuvent en attendre de cette institution en matière de développement notamment et par la même d'horizon, soit une Europe qui ne rime pas seulement avec législation mais aussi avec subvention. Alors en quoi et par quoi l'Europe contribue-t-elle à notre économie locale? Voilà en somme la question centrale de cette émission. Et pour en discuter, deux invités aujourd'hui avec nous, dont l'une des missions principales est d'accompagner dans la mobilisation de fonds européens. J'ai nommé Monique Delagrange et Guillaume Bonicel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Et puis avant de commencer l'émission, je vous présente bien sûr Eric. Eric et ses caustiques chroniques. Salut Eric.
Et bonjour les gens.
Je vous présente quand même, j'ai sauté une ligne. Monique Delagrange, vous travaillez au sein de l'association Terre de Vie en Lozère, basée à Mende. Et quant à vous, Guillaume Bonicel, vous travaillez pour le pôle d'équilibre territorial et rural, dit aussi PETR, du pays du Gévaudan Lozère, qui est basé à Marvejols. Eric, est-ce que tu nous dis de quoi tu vas nous parler ou tu gardes la surprise?
Il va y avoir du sport, mais pas beaucoup.
Bon, ça va, alors on en a marre d'entendre parler. Monique Delagrange, Guillaume Bonicel, vos deux associations Terre de Vie et PETR du pays du Gévaudan sont toutes deux ce qu'on appelle un GAL. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Élément de définition, lequel s'en charge de ce GAL? Qu'est-ce que ça veut dire? Monique Delagrange.
Je donne une précision. Donc, nous sommes association et nous portons un GAL. C'est nous ne sommes pas GAL, nous portons un GAL.
D'accord.
Le GAL, c'est un groupe d'action locale.
Ok. Voilà. Et en fait, vous êtes...
Leader. Groupe d'action locale légale.
Leader. Donc ça, c'est le nom du financement européen. On va y venir.
Et le leader, c'est
après.
Le nom du financement.
Voilà.
Oui, effectivement.
Et donc, le GAL, vous êtes sélectionné pour être constitué en tant que GAL, en fait, c'est ça?
Tout à fait. Il y a eu un appel à projet, déjà pour voir si notre structure pouvait porter ce GAL. Et ensuite, dans un second temps, on a été sélectionné sur notre projet de développement du territoire.
Ok. Quelque chose à rajouter ou pas, Guillaume Bonicel?
Le GAL, par exemple, pour le GAL Gévaudan, effectivement, et comme tout GAL, ça permet en fait de réunir des acteurs privés et publics. On a la représentation de la société civile dans cette structure, et ça permet de donner en fait finalement des avis sur les projets qui sont déposés. En tout cas, pour le GAL Gévaudan, il a une existence depuis 2007, au départ sous forme d'association pour la structure porteuse qui était le pays du Gévaudan. Puis après, ça s'est transformé en PETR, pour l'équilibre territorial et rural, qui regroupe 4 comités de communes. Et à l'avenir, il va y avoir aussi une évolution sur le GAL, puisqu'il va fusionner avec celui du PNR de l'Aubrac, le parc naturel régional de l'Aubrac, et le PETR du Haut-Rouergue.
Voilà, parce que la différence, où j'ai dit que vous étiez deux associations, vous êtes en fait, vous, plus Guillaume Bonicel, le PETR, un regroupement de collectivités, comme vous venez de le dire.
Exactement.
Ça a plus statut d'association, en fait.
C'est un syndicat mixte, maintenant.
Voilà, d'accord, syndicat mixte.
Alors que nous, on est association, on est sur nord-est Lozère, hein, puisque, effectivement, les GAL sont territorialisés. Mm-hmm. Sur un secteur, on ne peut intervenir que sur un secteur. Et donc, on est sur 4 communautés de communes qui sont le Haut-Allier-Margeride, Cœur de Lozère, Mont-Lozère et Rondon-Margeride. Et donc, ça fait à peu près 31 000 habitants qui sont concernés par notre intervention.
Et quant à vous, au PETR, quel territoire, quelle partie du territoire de la Lozère?
Le PETR du Gévaudan, il regroupe les 4 comités de communes de l'ouest de la Lozère. On a celle de Saint-Chély-d'Apché, le secteur de Haumont-Aubrac, Nasbinal et Fournelles, Marvejols, et puis le secteur de la Canourgue, Chanac, avec le Massegros, qui réunit à peu près 32 000 habitants. Donc un secteur qui est sensiblement similaire à celui de Terre de Vie en Lozère.
Depuis combien de temps, du coup, vous êtes un GAL? Est-ce qu'on peut le dire comme ça, d'ailleurs? Ça se tourne comme ça, oui.
Notre structure porte des GAL depuis 2009.
Okay.
Nous sommes au troisième programme, si je ne me trompe pas.
Et chez vous, au PETR?
Alors, de mémoire, c'est 2007, mais effectivement, c'est donc aussi création, notre troisième en fait, programme. Tout ouais, à fait, oui. Okay.
Est-ce que toute la Lozère est actuellement couverte par ces gales ou pas, où il y a des parties du territoire qui n'en bénéficient pas?
Actuellement, toute la Lozère retrouve ces gales qui permettent d'apporter ces financements européens leaders. On a l'association Terre de Vie en Lozère, mais aussi le PETR Sud Lozère et le PETR du Gévaudan qui permettent de couvrir l'intégralité des communes de la Lozère, soit 152 communes.
Exactement. C'est donc en tant que GAL que vous avez pour mission de porter l'un des programmes de financement européen. Donc vous l'avez nommé le LEADER, un autre acronyme, LEADER pour Liaison entre Actions de Développement de l'Économie Rurale. Donc c'est un programme qui a plus de 30 ans maintenant, il a été lancé en 92. Donc pour le décortiquer un peu, en développement de l'économie, on comprend. Liaison entre actions, qu'est-ce que ça veut dire? On le retrouve, ce mot action, dans GAL, d'ailleurs, un groupement d'action locale.
Ce qui est demandé dans ce programme, c'est qu'il y ait des partenariats qui soient mis en place, que le territoire soit en réseau avec les habitants, avec l'économie, avec l'environnement. C'est cette notion de partenariat qui est importante et de cercle vertueux. On ne vit pas seul, on ne vit pas isolé, on vit avec tout un environnement social, économique et local, et il faut travailler ensemble.
C'est-à-dire qu'il y a une cohérence, en fait, à préserver, quoi, entre les...
Et c'est ce que nous, on interpelle les porteurs de projets, on leur dit, est-ce que vous avez pensé à travailler avec l'association Intel, est-ce que les réseaux sont en place, est-ce que vous avez... Ça fait partie des critères avec lesquels on va retenir les projets. Si on vérifie qu'ils ont bien regardé autour d'eux, autour de leur territoire, pour travailler, et pour pas travailler seul, pour voilà. Travailler avec les associations d'à côté.
Pour venir compléter, en fait, ce qui potentiellement manque
oui,
sur un
voilà,
territoire
c'est
donné.
Ça. Ouais. C'est bien okay. Cette notion.
Et est-ce qu'il faut, en fait, qu'ils répondent aussi à des objectifs fixés par l'Europe, au niveau européen?
En fait, l'Union européenne avait voulu que ce programme soit mobilisé par les acteurs locaux. C'est pour ça qu'on appelle la démarche LEADER une démarche ascendante, c'est-à-dire que les fonds sont décidés au niveau européen, puis transmis aux régions qui sont autorités de gestion. Et ce sont les acteurs locaux qui décident à qui octroyer les fonds en fonction d'une stratégie qui a été définie ensemble. C'est-à-dire que les critères de sélection sont choisis localement.
Donc plusieurs fonds existent qui sont portés par l'Europe. Il y en a 8 en tout, je crois. Vous me dites si je me trompe. Et qui correspondent à différentes orientations. On fait encore un peu une espèce de cadre global. Différentes orientations politiques de l'Union européenne. Donc on a les politiques de cohésion économique et sociale d'un territoire. Les politiques des affaires maritimes et de la pêche. Politique de la migration et des affaires intérieures. Et enfin la politique agricole. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le LEADER, qui lui-même dépend d'un autre fonds régional, hein, c'est ça?
Le LEADER, c'est une des pieds de, c'est, fait partie du second pied de la PAC, donc c'est du FEADER.
Second pilier, ouais. C'est le mot, je crois, que j'ai vu.
Oui, c'est ça. Okay. Tout ce qui est social, ce sera le FSE, et tout ce qui est plus économique, industriel, va dépendre du FEADER. Mais le FEADER, on retrouve toute la politique agricole, mais aussi le LEADER qui est plus fait pour les territoires, c'est-à-dire le bien-être des territoires et la vie dans les territoires ruraux.
Ok, donc c'est pas forcément que des projets qui sont liés à l'agriculture alors que vous
non.
défendez.
Il y a vraiment un arbitrage qui est fait avec le fonds FEADER et on vérifie quand certains porteurs de projets arrivent s'ils relèvent du fonds agricole ou s'ils relèvent du LEADER. C'est quelque chose qu'on fait et on téléphone des fois à la Chambre d'agriculture en disant « Nous avons ce porteur de projet, nous ne savons pas de quel fonds il relève, quel est votre point de vue pour savoir vers qui l'orienter. »
Dans le même temps, vous l'avez dit, vous devez vous-même construire une stratégie adaptée au territoire. Il ne s'agit pas que de plaquer en fait, des espèces de directives envoyées d'en haut. Vous l'avez dit, c'est une démarche ascendante. Quels seraient pour vous vos deux territoires que vous couvrez, les stratégies que vous portez là actuellement?
La stratégie, en tout cas sur la programmation 2014-2023 du Galles-Gévaudan, elle portait sur le développement de l'économie locale pour soutenir, voire développer la population. Donc il y avait cette question de maintenir de l'activité économique, des services et aussi une certaine attractivité du territoire pour pouvoir avoir un nombre d'habitants suffisant pour garantir ces services. Et donc cette stratégie, elle s'est déployée sous forme de fiches action. Il y avait trois grands thèmes, on va dire, qu'il y a l'économie locale, le tourisme et l'attractivité, notamment avec les investissements des collectivités locales.
Alors, ces fiches action, en fonction du territoire et donc du porteur, du GAL, elles varient. Donc, pour nous, quand on a un porteur de projet qui vient nous rencontrer, on lui présente notre stratégie spécifique, c'est-à-dire que nous, sur notre fiche action 1, on va retrouver les services, le patrimoine, et dans la fiche action 2, ce sera le tourisme et l'économie, et dans la 3, ce sera plus tous les enjeux autour de l'eau, la biodiversité et l'agropastoralisme.
D'accord, entendu. Je me perds dans mes fiches, il faut que je me retrouve. On va en venir un peu plus maintenant, voilà, pour comprendre un peu le fonctionnement des financements, comment ils sont redistribués. Vous l'avez un peu évoqué, hein, c'est des choses qui sont votées d'abord au niveau européen. Eric avait une question, je finis ma question, tu vas la dire maintenant.
Non, après.
Ok. Donc c'est voter des fonds, des budgets votés au niveau européen d'abord, qui sont ensuite redistribués au niveau local. L'enveloppe, pardon, de ce fonds fédère, dont découle aussi le leader, dont découle aussi le leader, c'est une des plus grosses enveloppes des fonds européens. Et c'est des choses qui sont votées tous les 7 ans. Vous, chacun, comment sont répartis entre vos deux structures? En fait, comment ça représente quoi, en fait, ces enveloppes? Et comment elles sont, pareil, budgétées, votées, actées?
Alors nous, au niveau de notre territoire du Galles-Gévaudan et du futur Galles-Aubrac-Holt-Causse-Gévaudan, on aura environ 3 400 000 euros qui sera dédié au projet. Après, des critères font que la répartition par fiche action se fera assez naturellement, puisque du coup la sélection permet de choisir des projets qui entrent dans la stratégie.
Et c'est sur 7 ans aussi, hein. C'est pas que... Non, alors allez-y Monique Delagrange, complétez.
Alors en fait, dans le programme précédent, ils l'ont un peu rallongé, qu'ils l'ont pris sur cette phase de 7 ans. Donc du coup, il nous en reste 5 à faire. Sachant que sur les 5, 2023, on n'aura pas bien été efficace, hein, puisque ce n'était pas opérationnel. Donc,
à cause du Covid, c'était à cause de...
Du retard administratif.
D'accord.
Parce que ça arrive, mais ça arrive systématiquement dans les programmes. Hein, donc, okay. Mais ça risque d'être reporté sur les dernières années. Hein, donc on pense qu'on restera sur 5 ans pour dérouler le programme. De notre côté, pour compléter, donc nous, on a 1 785 000 pour notre secteur. Et nous l'avons mobilisé en répondant à l'appel à projet, en essayant d'être le plus convaincant avec notre dossier de candidature et ce qu'ils ont fait sur la zone Aubrac.
Parce qu'en fait, vous estimez que vous allez porter tel nombre de projets, donc vous estimez à l'avance une enveloppe nécessaire et vous la demandez pour en bénéficier. C'est comme ça que ça fonctionne.
C'est ça. C'est jamais assez. Hein. Nous, on dit qu'on aura plein de projets. L'Europe dit vous exagérez. On vous donne, voilà. Et ils nous donnent un peu moins. Voilà. Mais c'est sûr que on n'est jamais satisfait parce qu'on aimerait avoir beaucoup plus et on se sent des ailes et on pense qu'on aura la capacité et que sur le territoire, il y aura de bons porteurs de projets avec plein d'idées et qu'on aura de quoi faire.
Et vous les dépassez, les budgets, du coup, qui vous sont alloués?
On pourrait les dépasser, mais à un moment donné, on essaie de moduler. On met des plafonds, pour permettre de faire perdurer l'enveloppe sur l'ensemble des délais.
Eric?
Non, c'était... Oui, c'était pour savoir, justement, si les budgets, c'était sur toute la durée ou si c'était annuel. Donc là, elle a répondu un peu quand même à la question. Et pour savoir si les budgets, c'était que sur les projets que vous alliez financer, ou si c'était aussi pour vous, pour votre structure, pour vos structures à vous aussi?
Alors effectivement, il y a la possibilité de financer l'animation du programme, c'est-à-dire le personnel dédié à l'accompagnement des porteurs de projets pour monter les dossiers, aller sur le terrain pour faire les vérifications en lien avec la région, bien évidemment, qui est notre autorité de gestion. Et en quelque sorte, il ne faut pas qu'on dépasse 25% des enveloppes dédiées sur le programme Leader. Mais en plus de l'animation, on a aussi une enveloppe pour la coopération. La coopération avec d'autres territoires sous forme de GAL dans toute la France, mais aussi en Europe. Donc ce qui permet de créer du lien sur des projets thématiques qui ont été décidés par le GAL et approuvé par décision de la collectivité ou de l'association.
Oui, vous travaillez, j'imagine, aussi ensemble. Vous avez beau être deux structures, deux territoires, vous couvrez deux territoires distincts, ça se croise.
De toute façon, on échange, hein, parce que y a une administration assez complexe, donc on a besoin d'échanger au niveau et nos expertises. Et ensuite, on peut être amené à travailler sur des projets de coopération. C'est pas systématique, mais ça peut arriver. Y a des rencontres qui sont faites au niveau régional, en visioconférence, mais aussi y a de temps en temps des réunions présentielles à Montpellier ou Toulouse qui nous permettent d'échanger sur nos problématiques avec les instructeurs et l'autorité de gestion un peu plus en détail.
Le Leader, c'est un programme, on l'a dit, qui a un peu plus de 30 ans, que vous portez vous-même depuis maintenant plusieurs années. Ça représente combien de projets accompagnés depuis les débuts, ou alors au moins cette année-là, là, pour ce programme en tout cas?
Sur le programme 2014-2023, on est à 150 dossiers d'accompagnés, avec quasiment moitié-moitié de projets portés par le public et par le privé. Ce qui est plutôt un bon chiffre en Occitanie, puisque ça montre finalement une représentativité assez équilibrée des projets sur notre GAL.
Vous y veillez à cet équilibre aussi, j'imagine?
On essaye de faire en sorte que le programme soit connu par le plus grand nombre, à la fois par les associations, les collectivités, mais aussi les entreprises du territoire, puisque ce fonds permet aussi de mobiliser des cofinancements publics. C'est une obligation d'ailleurs dans le système de fonctionnement du programme Leader, c'est-à-dire que l'Europe intervient que s'il y a un cofinancement public local. Alors si c'est une collectivité, elle peut mobiliser son propre autofinancement, mais dans tous les cas, dans tous les projets, il faut qu'il y ait quand même un financement local qui soutienne le projet.
150 pour le PETR. Quant à vous, Association Terre de Vie?
Alors nous, on a monté 177 dossiers, mais il y a eu des pertes en ligne, donc parce qu'il y a certains porteurs de projets qui ont abandonné. Donc je dirais qu'on est autour de 150-160. On est à peu près pareil.
Et ça évolue. Bon, vous disiez qu'après, c'est en fonction aussi du budget que vous pouvez avoir, mais est-ce que vous en avez de plus en plus chaque année, des projets que vous accompagnez, ou c'est toujours à peu près stable?
Ça dépend de la communication qu'on fait. Hein. Ouais. Ça dépend aussi de l'accompagnement. Si on facilite les choses, on est là pour être des facilitateurs, pour permettre à planir les complexités administratives. Et quand on y arrive, on a un peu plus de porteurs de projets. Autrement, il y a des difficultés sémantiques, déjà, au niveau des mots qui sont incompréhensibles. Il y a la maquette financière à faire, ça aussi, c'est des complexités. Il y a des blocages qui peuvent arriver, et nous, en le sachant, on peut informer le porteur de projet dès le début, en disant « attention, faites pas ci, prenez-vous-y, comme ça ». Et là, on facilite. Et à ce moment-là, on attire les porteurs de projet parce qu'ils disent « ah ouais, mais il y a quelqu'un pour nous accompagner ».
Vous défricher, quoi, ouais. Eric.
Alors j'avais deux questions. Alors la première, c'est est-ce qu'il faut forcément que ce soit les porteurs de projets qui postulent, ou est-ce que vous, si vous avez entendu parler d'un projet, est-ce que vous pouvez aller les démarcher directement, entre guillemets, un projet qui pourrait vraiment vous intéresser ou intéresser vos financements? Et la deuxième chose, c'est est-ce que c'est vous qui décidez, qui acceptez un projet, qui donnez le financement, ou est-ce que vous êtes obligé de faire monter le dossier et après d'en référer au-dessus?
Alors, pour apporter quelques points de réponse, l'initiative vient du porteur de projet. C'est-à-dire qu'on communique de manière large ou des fois de manière un peu plus ponctuelle sur certains secteurs d'activité. Mais le projet doit être en tout cas mené par un porteur de projet. Sur les décisions qui sont apportées sur les projets, nous, on reçoit tous les porteurs de projets. Et la décision est amenée par un comité. C'est le comité de programmation qui est souverain sur cette décision et qui donne un avis soit défavorable, soit sous réserve ou favorable, en fonction d'une grille de sélection qui est transparente, puisque ça, c'était une exigence de la Commission européenne, pour pouvoir en fait avoir un juste traitement des porteurs de projets et une égalité aussi de traitement.
Alors, je peux compléter. C'est pas par rapport à l'intérêt d'un projet, mais nous, on communique globalement. C'est-à-dire que si on rencontre un élu qui recherche, bien on lui dit « Mais avez-vous pensé au leader ?» On travaille aussi avec la Fondation du patrimoine et on lui dit « Si vous avez vous travaillez avec des porteurs de projets, pensez que peut-être il peut mobiliser du fonds leader. » Voilà. Mais c'est vrai, après, globalement, on attend que le porteur de projet vienne taper à notre porte et nous dise « Est-ce qu'il y a des possibilités ?»
On va peut-être en citer des exemples un peu pour avoir une idée de quels sont ces projets qui bénéficient des fonds européens. Là, si vous en auriez un à nous citer, que vous accompagnez actuellement ou qui a abouti déjà, quel serait-il ?
Alors, on a beaucoup qui ont abouti finalement sur la période, mais de manière assez emblématique, on a aidé à des reprises de transmission de boulangeries ou de boucheries, même d'une épicerie multiservice par exemple à Serverette. Ce sont souvent les derniers commerces du village qui sont soutenus pour éviter finalement d'avoir une perte de service pour la population. Sur la partie touristique, on a aidé aussi des gîtes ou les stratégies touristiques des offices de tourisme. Ça peut être sur la partie communication, mais aussi sur les équipements qui sont un peu innovants, puisque c'est quand même la volonté du programme d'apporter un soutien à des démarches innovantes. On a eu, par exemple, sur le secteur de Marvejols, une visibilité du territoire dans l'office de tourisme via des Oculus ou des tables numériques sur d'autres secteurs. Sur la question de l'attractivité ou des projets de collectivité, voilà, là aussi, on a des exemples. Par exemple, la création d'une aire de jeu pour enfants qui permet d'avoir sur une commune une certaine attractivité pour les familles, ou la création de logements communaux dans certains secteurs, par exemple des Gorges du Tarn, qui manquent de logements dédiés aux travailleurs saisonniers. Donc effectivement, on appuie finalement une stratégie sur différents thèmes qui permet de développer tous les pans de l'économie du territoire.
C'est les mêmes projets que vous accompagnez ?
En partie, nous, on n'intervient pas sur les logements. Peut-être on intervient sur le patrimoine, je ne sais pas si c'est le cas, sur le Gévaudan, mais donc je pourrais citer la Calade d'Auriac, sur laquelle on est intervenu, également le château du Tournel, ou bien le parcours historique de nos sacs, sur toute la signalétique de présentation autour du lac. Donc ça, c'était notre volet patrimoine qui était assez important. Au niveau culturel, il y a le sentier sculpture en liberté. J'essaie d'illustrer sur des choses qui se voient sur Alquier, donc qui nous permettait d'intervenir sur du contemporain. On est beaucoup intervenu sur des équipements scéniques, mais aussi bien pour les privés que pour les publics, les communes ou bien des associations.
Parce que voilà, est-ce que c'est aussi des financements qui sont là que au début d'un projet, quand on parle de porteur de projet, c'est-à-dire que le projet est en phase de construction, ou ça peut aussi des fois compléter des structures déjà existantes qui cherchent à s'améliorer, à grossir?
Alors nous, effectivement, on a pu soutenir des créations au départ, mais aussi de l'amélioration sur des structures existantes. On a eu le cas, par exemple, d'un événement qui a été réalisé par les jeunes agriculteurs. Donc, c'était de la botte à la toque qui avait été soutenue. Donc, effectivement, c'était d'apporter aussi une démarche un peu nouvelle sur ce que font les activités des jeunes agriculteurs. Mais ça peut être également pour, par exemple, un hébergeur touristique qui a déjà un gîte et qui souhaite monter en gamme. Donc, c'était vraiment la volonté du programme, monter en gamme, aller dans une démarche un peu plus environnementale pour, par exemple, rénover énergétiquement son bâtiment et réduire, du coup, sa dépendance énergétique et sa consommation primaire d'énergie. Pour une collectivité, on a eu aussi le cas de logements déjà existants, mais qu'il fallait améliorer pour pouvoir continuer à les louer.
D'accord, donc c'est pas que la genèse d'un projet. Eric ?
Non, c'est pour rebondir justement. Là, on parlait il y a deux secondes d'environnement. Est-ce que ça fait partie des choses maintenant qui sont plus regardées quand vous acceptez, quand un projet est accepté, ou pas forcément ? Mais est-ce que l'environnement vient au cœur finalement des décisions ?
Alors effectivement, la transition écologique peut être un élément, un critère pour faire gagner des points au projet, puisque les projets sont notés à la demande de l'Europe. Et donc ça fait partie des critères, effectivement, que l'on regarde, on leur demande qu'est-ce que vous avez prévu pour vos déchets, est-ce que vous faites du tri sélectif, quel type de matériaux vous allez utiliser pour votre gîte, est-ce que vous allez travailler avec des entreprises locales, voilà, il y a toutes ces notions qui interviennent dans le choix des dossiers.
Et est-ce qu'il y a un suivi justement par rapport à ça, pour bien vérifier que par rapport au projet, tout a été mis en place comme le projet était proposé.
Au niveau des factures. Au niveau des, enfin, une partie au niveau des factures. On voit où ils sont allés. En principe, le dossier est monté avec des devis, avec un certain nombre d'entreprises. Et en principe, à la fin, c'est les mêmes entreprises avec les prestations qui ont été arrêtées. Et s'il y a un contrôle, il est possible que derrière, on leur dise « Vous perdez la subvention, vous n'avez pas respecté le cahier des charges, la convention. »
En tout cas, effectivement, on a un peu le même principe sur le Galgé-Vaudan. On organise dans tous les cas une visite sur place pour vérifier que les investissements sont bien réalisés. Et on a eu des exemples, par exemple, où un hébergement touristique est labellisé éco-gîte, donc ça permet finalement d'avoir une reconnaissance sur la démarche environnementale. Ou un projet d'investissement d'une collectivité qui met en place des poubelles de tri sélectif. Donc effectivement, c'est des éléments qui sont visibles pour la visite sur place et qui permet de justifier la démarche leader, une certaine bonification finalement dans le projet et améliorer finalement la dimension environnementale de l'investissement.
Vous l'avez dit, ce financement leader européen, c'est un cofinancement, il couvre jamais l'entièreté du coût global. Est-ce que, du coup, là, par exemple, pour les exemples que vous nous avez cités, en général, c'est quoi ? C'est 20%, 30%, ça varie vraiment en fonction aussi du montant total du projet porté ?
Le plan de financement idéal, c'est 20% d'autofinancement par le porteur de projet, c'est 64% du leader, c'est 16% de cofinancement de fonds nationaux. Ça, c'est le plan de financement idéal. Mmh. Mais il y a des plafonds parce que quand on atteint une certaine somme, comme nous sommes limités par nos enveloppes, ça sera adapté, on fera des plans de financement adaptés en fonction de ce que peut donner le cofinanceur aussi. Et donc le plan de financement, de toute façon, on le fait avec le porteur de projet et on stabilise tout avec le cofinanceur si nécessaire pour se retrouver avec quelque chose qui tienne la route et qui soit à l'idéal pour tout le monde. Mmh.
Et est-ce qu'il y a un plafond, je ne sais pas si un projet coûte une certaine somme, est-ce que là vous estimez, ben non, c'est beaucoup trop, donc ces fameux 60% de financement européen, on ne pourra pas, donc on y renonce d'avance, quoi. C'est déjà arrivé ?
Effectivement, alors on ne renonce pas au projet. C'est-à-dire que dès le début du programme, on avait fléché par type d'action des plafonds. Par exemple, hébergement touristique, on dépassait pas 20 000 euros. Sur un projet d'une collectivité, le maximum, c'était 80 000 euros. L'intérêt, c'était de pouvoir mobiliser le programme sur la durée, mais aussi pour un plus grand nombre d'actions. Et ainsi soutenir une diversité de projets, à la fois sur l'économie, sur le tourisme, mais aussi pour l'attractivité locale.
Donc concrètement, comment ça fonctionne ? Vous l'avez dit, c'est les porteurs de projets qui viennent vous voir. Et donc là, vous les aidez à monter un dossier, en fait.
Voilà, c'est le passage obligé. C'est un premier coup de fil pour connaître un peu quel est le projet, s'il s'inscrit dans la stratégie. On en a un rendez-vous derrière et on explique le circuit du dossier, comment ça va se passer les premières démarches. On demande une fiche d'opportunité au porteur de projet qui sera une pièce obligatoire dans le dossier. On lui demande de produire ses premiers devis, des doubles devis. Puisque nous sommes, on ne prend pas forcément, il va y avoir un choix entre ces deux devis et l'Europe gardera le coût raisonnable.
Mmh.
Et
le coût moins cher, ça veut dire
c'est, non, c'est pas ça. C'est le moins cher plus 15%. Mmh. Voilà. Donc c'est pour ça. Mais après, ils peuvent choisir le plus cher. Mais on fera, on calculera,
vous tranchez.
Okay. On fera le coût raisonnable.
Est-ce que vous-même, votre accompagnement est gratuit ou pas, d'ailleurs ?
Alors, oui. Guillaume a déjà répondu, hein, c'est en disant que une partie de cet accompagnement était financée par le programme.
Excusez-moi, inadvertance. Combien de temps en moyenne dure cet accompagnement, s'il y a un temps moyen d'accompagnement, ou si ça varie vraiment trop ?
L'accompagnement, en fait, il dure sur la vie du projet, en tout cas dans sa réalisation. C'est-à-dire qu'il y a l'idée du projet d'abord avec le porteur de projet. Donc,
mais disons, de la demande de financement jusqu'à l'obtention de la subvention, quoi.
Alors, ça peut aller de 2 à 3 ans s'il y a des travaux. C'est en fonction aussi de la durée de réalisation de l'investissement. Si, par exemple, c'est un événement qui a lieu 3 mois après le dépôt du dossier, il peut y avoir un paiement sur l'année suivante.
S'il n'y a qu'une facture, ça va aller très vite.
Ouais,
si ce sont des travaux avec une quarantaine de factures, c'est plus long.
Eric ?
Non, c'était juste pour savoir, vous êtes combien dans chacune de vos structures à travailler ?
Alors, sur le GAL Gévaudan, on est actuellement 2 personnes. Mais dans le nouveau GAL, donc on sera 5, avec une limite en nombre d'équivalents temps plein, puisque du coup, on ne devrait pas dépasser 4 équivalents temps plein.
Votre budget va augmenter ?
Le budget, en tout cas sur l'animation, va être même réduit par rapport à ce qu'on connaissait dans chaque structure, puisque du coup, finalement, en équivalent temps plein, on va réduire sur le GAL Gévaudan en Lozère. On était 2,3 équivalents temps plein à l'origine, et on est passé sur le prochain programme à 1,5.
Pareil chez vous ?
Non, alors nous, on sera. On a un plafond à 1,6 ETP. Et avant, on était à 2,20 ETP minimum.
Vous avez perdu du monde ?
Oui.
On entend les voisins à côté. C'est l'heure de manger aussi. Votre mission, donc, c'est de faire connaître ces financements, ce mode en particulier de financement qui est le leader. Est-ce que vous diriez que les financements européens souffrent davantage d'être peu connus ou qu'ils sont trop complexes pour y prétendre ? Ou c'est un peu des deux.
C'est peut-être un cocktail, mais ouais. Dans l'idée, effectivement, peut-être que le programme n'est pas assez connu. Toutefois, sur la Lozère, je trouve qu'on communique assez régulièrement. Depuis 2016, on mène des actions concrètes pour faire connaître le programme. Ça peut se faire soit via les réseaux classiques de nos collectivités, mais aussi pour le grand public. Pour faire connaître, on utilise aussi l'événement du Joli Mois de l'Europe, c'est tous les mois de mai, pour fêter les actions de l'Union européenne et des financements dans les territoires, en rappelant aussi que la fête de l'Europe, c'est le 9 mai. Mmh. Donc ça, c'était une première des approches.
Mais est-ce qu'il y a des structures qui, par exemple, se disent « nous, on ne peut pas » Parce que vous parliez que notamment les collectivités doivent faire des avances de frais, quoi. Elles doivent prendre en charge aussi pour toucher des subventions européennes, prouver qu'elles sont capables de financer en partie aussi, vous me regardez avec les yeux, les sourcils qui froncent. Est-ce que du coup ça bloque
sur l'Europe de toute façon, ouais. Que on soit privé ou public, il faut avancer
dans tous les cas.
Ouais. Dans tous les cas, il faut avancer et l'Europe viendra quand les cofinanceurs auront payé.
Déjà payé.
Voilà. Et ensuite l'Europe viendra et payera sa quote-part.
Et ça, c'est pas. Est-ce que c'est pas plus un frein pour les petites structures du coup?
Si, effectivement, c'est un frein. Nous, on les avertit, on leur dit d'être très prudents, de bien vraiment réfléchir en amont, de prévoir cette avance financière pour pas qu'ils se trouvent en difficulté au dernier moment, sur les phases pour finir les travaux, pour attendre le paiement de l'Europe. Voilà, on les informe et on les avertit, on les accompagne énormément sur cette partie pour pas qu'ils se trouvent en difficulté.
Mmh. Et donc vous direz que c'est plus la complexité ou le manque de connaissances, Monique Delagrange, que c'est vis-à-vis de ces fonds européens, quoi, que certains n'osent pas y aller.
Je pense que tout le monde sait qu'il y a des fonds européens. Mmh. La difficulté, c'est tout le monde doit se demander mais par quel fil il faut le tirer pour arriver à les mobiliser. Après, quand on commence à leur expliquer le nombre de papiers, des fois, il faut décrypter ce qu'on veut demander. On essaie de simplifier au maximum. Et d'ailleurs, ça justifie notre présence et notre poste et notre et le fait que on soit en permanence à les appeler, peut-être à les exaspérer en leur en leur disant attention, faites à ça, donnez-nous tel papier de telle façon, parce qu'on sait comment ça se déroule et on sait les heurts qui peuvent arriver et sur un détail, un dossier peut être bloqué, donc on essaie tout le temps de les accompagner. Alors peut-être que noyé sur nos avertissements, peut-être on a trop peur parce qu'on se soucie de nos porteurs de projets, ils doivent peut-être être un peu effrayés, ils doivent dire oh là là, c'est... Mais en fait, il y a des dossiers qui se passent vraiment très bien et parce qu'ils ont été concentrés, on leur a bien expliqué. Tout le temps, on les a eu au téléphone, on leur a dit « Attention, vous avez pensé à ça, ce dossier, vous l'avez, est-ce que vous pouvez le présenter plutôt comme ça ?» Et en accompagnant dans le temps, régulièrement, on arrive à faire aboutir des dossiers qui se sont... Il y a eu plein de dossiers qui se sont bien passés. Ils ont eu des émotions, mais ça s'est bien passé globalement. On n'a pas eu de très grosses difficultés pour les projets qui se sont engagés dans les fonds... Les porteurs de projets qui se sont engagés dans les fonds leaders. Mmh. Je ne sais pas, du côté Gévaudan, si vous avez eu...
Effectivement, parfois, le paiement est assez long, surtout dernièrement, mais... on a bien averti les porteurs de projets de la longueur de traitement des paiements. À l'avenir, toutefois, il va y avoir une petite révolution sur le programme Leader, puisque nouveau logiciel va arriver, il s'appelle Europac, et on n'utilisera plus finalement le papier, mais tout sera dématérialisé. Donc, pour certains aussi, ça peut être un frein de le tout numérique. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir des personnes qui aident aussi les porteurs de projets à monter la demande et à faire le lien sur le nouveau logiciel qui sera en ligne très prochainement.
Je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Mais avant ça, Eric, on t'écoute avec ta chronique.
Oui, donc sont bientôt les Jeux Olympiques. Je vous le dis tout de suite, on ne va pas compter sur un seul Lozérien pour nous rapporter une médaille. Mais on a eu des porteurs de flamme. Ils n'étaient pas aussi réputés que Jules, mais quand même des relayeurs de la flamme, tout un symbole. Alors avec ces Jeux Olympiques, on veut aussi mettre en avant une France qui serait sportive. Je ne sais pas si autour de la table vous êtes sportif. Mais ce week-end, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait le Mans qui donne.
Tout à fait, je l'ai vu depuis le bar, moi. Ouais.
Grand succès, cette course en relais. Alors, vous aurez peut-être remarqué ce geste de la plupart des coureurs, quel que soit leur niveau, au moment du départ, au moment de la première foulée, de surtout bien penser à appuyer d'abord sur sa montre, qui au cours de ces 5, 10 ou 7 kilomètres devait tout vous dire sur votre rythme, votre foulée, vos battements de cœur, l'indice glycémique, la pression atmosphérique et artérielle, le nombre de globules rouges, blancs, verts, oranges, jaunes. Elle a dit si vous étiez dans le bon tempo, si Clara allait plus vite que vous, et là c'est la catastrophe parce que Clara ne court pas, ou si vous avez explosé vos meilleurs temps. Elle vous a dit si vous aviez besoin de vous hydrater, de vous alimenter, d'aller vous vider ou de transpirer un peu plus. Elle vous a également dit à quelle quantité de bière réparatrice vous aviez le droit à l'arrivée. Et c'est presque tout de vous. Si vous n'êtes pas sportif, elle vous parlera quand même. Elle vous dira peut-être juste de vous lever à intervalles réguliers pour ne pas rester assis, prosterné devant vos écrans toute la journée. Et il faut bien vous l'avouer, elle ne vous demande jamais au bon moment de vous lever. Mais cela aussi, elle le sait. Et elle sait aussi que vous ne savez pas comment enlever cette application sur la montre qui vous demande de vous lever quand ce n'est pas le bon moment. Et même si elle n'a pas de conscience, elle rigole bien de vous voir écouter ses ordres. Levez-vous, espèce de feignant. Mais comment le désinstalle, le bousin? Bon, je ne cours pas et je ne fais pas le monde qui donne. Mais j'avais tendance à me perdre en forêt, alors j'ai une montre connectée avec boussole intégrée pour que je retrouve mon chemin, ou toute civilisation à proximité. Depuis, je regarde mes pas. Je suis même devenu obsédé par mon nombre de pas. Tiens, là, par exemple, aujourd'hui, j'en suis à 5699.
C'est réel, il vient de le faire. Hein.
Donc, c'est la honte. D'habitude, je marche entre midi et 14h, donc un peu plus. Mais là, même pas une bière en plus pour me remonter le moral d'avoir pas fait mon nombre de pas. En moyenne, je suis autour de 18 000. Et elle peut même te donner la longueur des pas, le rythme cardiaque. Je l'ai déjà dit peut-être, mais elle le donne quand même. Le temps d'appui au sol et même le temps de double appui au sol. L'asymétrie de la marche. J'avoue que je penche d'un côté, mais je ne dirai pas lequel. La fréquence cardiaque, je l'ai déjà dit peut-être, mais elle le redonne quand même. La variabilité de la fréquence cardiaque. Bon, là, je pense que vous avez compris. Les calories dépensées, l'énergie au repos. Oui, je sais, l'énergie au repos. Hein. Et là, rien que d'en parler de l'énergie au repos, ça me fatigue. Le nombre de marches grimpées et même d'étages, elle calcule elle-même combien il faut de marches pour faire un étage. C'est pas incroyable, ça? Bon, en Lozère, on a un peu de pente et de dénivelé, alors ça rend la plus zinzin. Elle a l'impression que j'habite en haut d'un immeuble à 20 étages et c'est presque jouissif, enfin, de la faire monter dans les tours. Après, je regarde les cercles en couleur de l'appli et je pourrais presque m'en vanter. Mais ça reste de la marche, je ne vais toujours pas faire les Jeux Olympiques. Bref, les datas nous suivent quand on marche, quand on nage, quand on saute, quand on monte trois marches, quand on rampe, quand on redescend les trois marches qu'on vient de monter parce qu'on a oublié un truc trois marches plus bas. Je dis ça pour Béranger qui a tendance à tout oublier et surtout de venir à l'émission. Quand on fait des ricochets, quand on fait du hula hoop, quand on fait trois pas en avant et deux pas en arrière, ça c'est l'option pour les politiques, ou encore quand on recule pour mieux sauter. Les datas ont modifié notre approche du sport, aussi bien professionnel qu'amateur. Parfois, elles nous enrichissent. Souvent, elles nous soumettent à leurs injonctions. Parfois, je dis bien, parfois, elles parlent de sport. Et souvent, elles parlent de narcissisme. Comme si sans data, il serait maintenant impossible de gagner ou même juste de profiter d'une balade dans la douceur printanière. Mais maintenant, au moins, je ne perds plus en forêt.
Combien de pas chacun? Je voyais que vous regardiez vos montres respectives.
Ben, la mienne a varié.
Il n'y en a pas. Et quant à vous, Guillaume, vous avez une montre comme Eric, on dirait.
Oui, oui, tout à fait. Il faut que je marche un peu plus parce que je suis à 1100 et quelques pas et il faut que j'obtienne au moins 6000 pas dans la journée.
Ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le temps de la chanson, peut-être. Merci, Eric, pour ta chronique.
Monsieur M. marabout.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'Happy Hour sur 48FM. On poursuit notre émission consacrée aujourd'hui à l'Europe. Et on est en présence de Guillaume Bonicel du PETR du Pays du Gévaudan et Monique Delagrange de l'association Terre de Vie en Lozère, sans oublier bien sûr Eric. On poursuit, je propose qu'on parle de ce joli mois de l'Europe que vous avez évoqué tout à l'heure, Guillaume Bonicel, parce que ça fait partie aussi des animations que vous faites autour de l'Europe pour mieux la faire connaître, son fonctionnement, comment elle se concrétise en fait dans notre quotidien. Déjà en deux, trois mots, le joli mois de l'Europe, donc c'est la 14e édition cette année. En quoi ça consiste en fait ?
Le joli mois de l'Europe, c'est l'occasion de valoriser des projets réalisés avec des financements européens ou d'avoir des expositions sur le thème de l'Europe. Alors effectivement, moi depuis que je travaille au Gal Gévaudan, donc en 2016, on avait commencé à faire des actions sur différents thèmes. On a pu avoir par exemple une journée sur les hébergements touristiques, comment les financer, comment aussi aller rechercher des labellisations. Tout dernièrement, donc on a pu mener des actions donc au lycée François Rabelais qu'on avait déjà initié l'année dernière sur une présentation auprès des étudiants de ce que fait l'Europe dans les territoires, c'est-à-dire avec le financement leader, qu'est-ce qui est soutenu, mais aussi une présentation des institutions européennes via la Maison de l'Europe de Nîmes qui était venue sur place. Donc ça, c'était les dernières actions qu'on a menées.
Vous êtes allé à la rencontre des jeunes de ce lycée. C'est un lycée agricole, je crois, à Saint-Chély. Est-ce que ce choix du lycée agricole, c'était au hasard ou pas au hasard ? Est-ce que c'est parce que vous considérez que ce financement leader, comme il s'intègre dans une politique qui défend des financements qui sont orientés vers les territoires ruraux et un peu agricoles, c'est lié en tant que potentiel futur bénéficiaire de ce fonds leader ou pas ? Ou je fais une interprétation déplacé.
Oui, effectivement, c'est finalement un public qui pourra être intéressé par ce type de financement, puisque, comme on l'a rappelé tout à l'heure, le programme leader est finalement un financement qui provient de la PAC, la politique d'agriculture commune. Dans le second pilier, il y a le développement local et notamment le programme leader. Donc on a déjà eu par exemple des retours, alors parfois c'était pas le jeune bien sûr, mais c'était des parents qui venaient chercher plus d'informations, puisqu'il peut y avoir dans des fermes un projet de création de gîtes ou bien des jeunes qui s'installent après sur d'autres types de projets en milieu rural. Ça peut être de la location de VTT électrique ou autre, et c'est vrai que finalement le fait de mieux faire connaître nos dispositifs aux plus jeunes, ça permet de démocratiser aussi un financement et l'action de l'Union européenne au sein même de nos territoires.
Ces étudiants à qui vous avez présenté vos actions et ce programme leader, ils le connaissaient via leur entourage ? Ou du coup, comme vous le dites, c'est plutôt eux qui le font connaître ?
Alors, les financements eux-mêmes étaient parfois pas connus. Ce qui ressort, c'est aussi dans le parcours de formation, les grands blocs d'information avec la PAC, bien sûr, et puis tout ce qui en découle. Mais le concret du financement n'apparaît pas forcément si on n'intervient pas, si on ne valorise pas par une communication dédiée ou en mettant en avant des exemples de projets qui ont pu se réaliser sur le territoire tout proche, par exemple, du lycée.
Et pourquoi la ville de Saint-Chély ?
Alors, on essaye sur notre territoire de couvrir l'ensemble du territoire. On peut mener des actions, par exemple, sur Marvejols, la Canourgue, le Massegros, comme on a pu le faire par le passé, mais aussi, du coup, Saint-Chély tout récemment, ou encore le Malzieuville. Donc, on tourne régulièrement pour porter des événements.
Et d'ailleurs, prochain café débat, ce sera ?
Effectivement, il y a un prochain café débat qui va avoir lieu, c'est le 1er juin à Marvejols, donc sur la place du marché, et avec la Maison de l'Europe de Nîmes. Donc il y aura une petite animation sur les questions européennes, et je pourrais faire le lien sur l'Europe des territoires qui est tout simplement une mise en avant des projets qui ont pu être financés, des exemples concrets qui pourraient inviter certains porteurs de projets à mener des actions et à solliciter un financement dès l'ouverture du nouveau programme.
La rendre plus concrète, donc on rappelle, hein, c'est le 1er juin, samedi, donc entre 10h et 13h sur le marché à Marvejols. Autre action, animation qui contribue à rendre aussi plus concrète l'Europe, c'est l'éductour que vous proposez, donc jeudi 30, je précise parce que l'émission va être rediffusée après, pour pas certains qui puissent être déçus. De toute façon, vous êtes complet, je crois.
Oui, après, on est une quinzaine.
Voilà. Mmh. Et donc, voilà, nous préciser déjà ce qu'est qu'un éductour et ensuite, là, où est-ce que vous allez aller cette année.
Alors, notre éductour... un éductour, c'est permettre de découvrir un circuit de découverte que nous faisons autour des projets que nous avons financés. C'est la troisième année que nous en faisons. La première année, on avait été du côté de Chanac parce que c'était la dernière année où on allait avoir le territoire de Chanac sur notre programme. L'année dernière, ça a été du côté de Langogne et donc nos sacs. On a été jusqu'à Auroux. Et cette année, ça sera le Blémar du côté donc Bagnoles, et on ira dans le Val d'Aunès. Voilà.
Et donc c'est toute une journée et vous allez donc visiter différents...
Et on va visiter des commerces, on verra le four à pain de Varazou, donc qui a été aidé. On va visiter les chambres de la remise que nous avons, qui ont été rénovées. Et puis on finira la journée avec Claire Perroton de la compagnie Livernu qui va nous montrer les équipements, les machines-outils qui ont été financés pour la fabrication de marionnettes. Je pense que ça va être passionnant.
Eric, tu avais une question ?
Non, c'est que l'Europe est très critiquée en général. Est-ce que vous le ressentez, ça, sur le terrain ? Est-ce que vous avez besoin de faire beaucoup de pédagogie pour montrer tout ce que vous pouvez faire et tout ce que l'Europe fait pour les territoires ruraux ?
Effectivement, on peut percevoir parfois une certaine incompréhension des institutions européennes, parfois aussi un désaccord ou bien souvent, en fait, c'est un manque d'information, puisqu'on a l'impression que l'Europe est loin, mais finalement, on la constitue tous en étant présents ici, lausériens, français, et puis du coup, ressortissants de l'Union européenne. Donc, c'est aussi nos actions quotidiennes qui font qu'on participe à cette vie européenne. On a nos dispositifs de financement qui permettent de mobiliser ces fonds européens, mais il y a d'autres aussi dispositifs, à la fois pour les jeunes, par exemple, pour aller découvrir les territoires européens. Et finalement, nos voisins européens ont aussi des coutumes qu'on peut connaître, mais c'est aussi la découverte d'un patrimoine et puis finalement de projets qui nous réunissent, parce que des projets pour valoriser les territoires ruraux, on en retrouve, et c'est parfois dans le cadre de la coopération qu'on peut mener des initiatives qui nous intéressent. Nous, en tout cas, sur le Gall Gévaudan, on a pu mener un projet de coopération sur le tourisme et handicap. Et dernièrement, on avait eu une rencontre sur Bruxelles qui a permis en fait de faire des rencontres avec une personne qui travaille dans un Gall en Autriche et qui recherchait un partenaire sur cette activité, puisque le tourisme est aussi un fort enjeu dans les territoires autrichiens, dans les territoires ruraux, et la question du handicap permet l'inclusion, mais pas forcément que le handicap classique comme on connaît, mais aussi dans le cadre du vieillissement de la population que connaît l'Europe, avec la volonté de faciliter l'accès à certains sites et hébergements.
Donc ça fait aussi dialoguer avec d'autres pays de l'Europe. Alors c'est pas que focus sur le local finalement, ces actions que vous faites là autour de Leader.
Effectivement, la majorité des actions, je dirais, mais Monique Delagrange pourra confirmer, elles sont quand même locales, donc ça c'est l'intérêt. Mais on a ce réseau en Occitanie, on a le réseau Leader en France, le réseau Leader France tout simplement, et puis le réseau européen des Galles qui s'appelle LAD, donc LAD Europe.
Vous vouliez dire quelque chose, Monique Lagrange? Pas obligé, hein.
Non, j'étais en train de réfléchir si peut-être au niveau des compléments, plutôt on a des interventions plus pédagogiques, puisque nous on travaille plus à adapter la réglementation nationale à la règle européenne. Des fois on met sur le dos de l'Europe des difficultés qui viennent de ces problèmes d'adaptation. Et voilà, et c'est surtout le temps qu'il faut pour adapter qui fait qu'il y a des blocages. Mais du coup, on met sur l'Europe des choses dont elle ne peut rien. C'est ces phases-là qui sont un peu compliquées.
Dernière petite question pour revenir à l'éductour. Donc, on peut plus s'inscrire, c'est trop tard. Hein.
Ben là, bon, s'il y a une personne, bon, on se poussera un peu. mais a priori, aux dernières informations, les effectifs étaient complets. Voilà.
Okay. Mais en tout cas, c'est une opération que vous faites chaque année.
On le fait chaque année. On a fait une année avec des conférences avec les jeunes, le Jeune de l'Europe. On a fait aussi, on a été présents sur le marché de Langogne à deux reprises, sur le marché de Mende. Et ou bien, on a d'autres années, on a fait la présentation de nos programmes. Voilà, chaque année on change, on essaie de s'adapter à la demande, aux besoins, et puis des fois on sent qu'il y a des zones du territoire qui ne sont pas très réceptives, donc on y va, et on vient, on explique, on voit on essaie de montrer tout le levier que peut être l'Europe pour faire les projets qui sont sur le territoire. Et on se fait connaître parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des associations qui ne nous connaissent pas, mais que nous non plus on ne connaît pas.
Et oui, le réseau est encore à tisser et on peut aller, j'imagine, toquer à votre porte aussi.
Oui, bien de sûr. Façon,
tout à fait.
Oui, nous, ça nous fait toujours plaisir de connaître une nouvelle personne, même si ça n'aboutit pas in fine, mais ça, on ne sait jamais à quoi ça peut aboutir, une rencontre. Donc, si ce n'aboutit pas un projet Leader, ça peut aboutir à de la coopération, à une mise en réseau, voilà. Et des fois, on renvoie à nos collègues.
Alors, peut-être rappeler chacun vos adresses. Donc, j'avais dit Amende pour Assauterre de Vie. Où ça exactement, Amende ?
Rue Pont Notre-Dame. Donc, voilà.
En face de l'Agence de la mobilité, c'est ça ?
Presque en face de l'Agence presque de la mobilité. Ouais.
La rue tourne un peu. Et quant à vous, Guillaume Bonicel, à Marvejols.
Le PETR du Jourdain est basé dans la zone d'activité Sainte-Catherine, au 830 avenue de la Méridienne. Et on est joignable au 0466 47 46 49.
Et ben voilà. Vous connaissez pas votre numéro?
Ah non, moi je connais pas mon numéro.
Je mettrai les adresses mail sur la page de l'émission. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'à nos studios. Merci encore à toi, Eric. On se dit à très bientôt pour la prochaine Happy Hour.
Un grand merci, 48 FM. 48 FM.